Radio Kapi.
Les informations avec Jacques-Yves Molima.
Aussitôt arrivé hier jeudi, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé dans la soirée une réunion de conseil de sécurité élargie au caucus des députés nationaux du Nord Kivu à Goma. Pour les élus du Nord Kivu, la priorité, c'est de rétablir la sécurité dans la province. Et puis, 26 écoles primaires et secondaires et 6 centres de santé du territoire de Mwembe Miabi au Kasaï Oriental ont bénéficié jeudi des sacs de ciment et des tôles, dont des fondations André Kadima et Ultime Espoir. Enfin, nous recevons comme invité dans cette édition du journal Chantal Bahati, coordinatrice nationale de l'ONG dénommée Future for All à Uvira. Elle nous parle des activités culturelles dénommées Gala culturel Umoja, Grandir ensemble, qu'elle a organisé dans la ville d'Uvira à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. À Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé dans la soirée du jeudi une réunion d'évaluation de l'avancement de l'état de siège au Nord Kivu. C'est lors d'une réunion de conseil de sécurité élargie au caucus des députés nationaux du Nord Kivu en présence du chef d'état major général de FRDC, du commissaire général de la police et de plusieurs ministres du gouvernement, dont celle de la justice. Des questions sécuritaires du moment étaient au centre de cette réunion. Pour le caucus des élus du Nord Kivu, la priorité c'est de rétablir la sécurité dans la province. Ces derniers constatent que l'état de siège n'a pas atteint ses objectifs et proposent sa réqualification. Piro et la Mégie.
Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette rencontre hier tard dans la soirée. Mais le président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu indique que les contextes difficiles, sécuritaires et humanitaires du moment dans la province étaient au centre de cette réunion. Singo Mamwanza souligne notamment les attaques des ADF dans la région des Beni qui continuent à faire des morts et des déplacés. L'occupation de Bunagana et ses environs par le M23 avec des conséquences indescriptibles. C'est notamment le nombre élevé de déplacés dans Rutshuru et Miragongo, les écoles qui n'ont pas ouvert à la rentrée parce qu'occupées par ces déplacés et bien d'autres. Quant à l'évaluation de l'état des sièges, l'honorable Singo Mamwanza a souligné qu'après un survol de la situation, il a été constaté que les objectifs assignés à l'état des sièges n'ont pas été atteints, d'autant plus que l'insécurité continue à se généraliser, notamment les ADF qui s'étendent de plus en plus. C'est pourquoi les élus du Nord Kivu proposent une réqualification de l'état des sièges, que le pouvoir soit restitué aux civils et que la région de Rutshuru et Beni soit considérée comme des zones opérationnelles, précise cet élu du Nord Kivu. Les députés ont également demandé au ministre des Affaires humanitaires présent à la réunion qu'un plan d'urgence soit établi pour assister tous les déplacés qui sont en errance dans le Rutshuru.
Pendant ce temps en Ituri, le gouvernement étant informé de tout ce qui se passe dans cette province sur le plan sécuritaire, il doit prendre des décisions courageuses pour y instaurer la paix. Ne pas le faire, il sera tenu responsable. C'est ce qu'a déclaré hier jeudi à Bunia le député national Jackson Aoussé à la fin des consultations menées par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé avec les différentes couches de la population. Pour cet élu du territoire d'Irumu et membre du regroupement politique Ensemble pour la République, le gouvernement doit appuyer les autorités militaires provinciales pour faire aboutir le processus de paix en cours dont les acquis sont visibles. Il cite notamment la signature des actes d'engagement par certains groupes armés qui se disent prêts à déposer les armes. Le député national Jackson Aoussé est au micro de Martial Kizabiamungu.
Le gouvernement est informé. Il est enrichi sur le processus de prise de décision. Moi, je pense que s'il ne prend pas de décision courageuse, toutes les responsabilités vont continuer à lui revenir. Et nous, comme des gardiens, comme des témoins, nous allons continuer à faire des suivis par rapport à tout ce que la population nous a dit. Par rapport à l'état de siège, c'est très clair. Une mesure exceptionnelle. Comme mesure, elle a produit ce qu'elle peut produire. On ne peut pas encore lui demander trop. Moi, je pense qu'ici, le gouvernement central doit venir en aide au gouvernement provincial, notamment pour les groupes armés locaux qui ont signé des documents, parachever, n'est-ce pas, la suite des événements jusqu'à en arriver au dépôt des armes et tout, et pour que les gens commencent à rentrer dans leur village. Pour les groupes armés étrangers, il faut organiser les opérations militaires. Ça aussi, c'est toujours la mission qui relève du gouvernement central à travers les services et tout. Donc, moi, je pense que c'est très clair. Il n'y a pas un perdant, il n'y a pas un gagnant. C'est la République qui doit sortir, n'est-ce pas, gagnant, parce que c'est ce qui est important. Et moi, je pense qu'on ne peut pas tergiverser à ce moment ici. Il faut qu'il y ait des décisions de grandes envergures qui doivent être prises, en fait.
Toujours en Ituri, le bilan de l'attaque des rebelles des ADF, mardi dernier à Toli Toli, village situé à 47 km de Mambasa Centre, sur la route nationale numéro 4, est passé de 6 à plus de 10 morts. Selon la société civile locale, d'autres corps ont été découverts cette semaine dans la brousse. Des sources coutumières indiquent que le nombre de victimes peut être revu à la hausse car le sort d'une dizaine d'autres personnes prises en otage par les rebelles des ADEF n'est toujours pas connu. De son côté, l'administrateur du territoire de Mambasa déclare que l'armée est en pleine opération de ratissage dans la zone de combat où ces rebelles sont en errance. Notons que des centaines de familles des villages de Mugamba et Loa et Loloa, deux entités proches de Tolitoli, se sont déplacées vers Komanda Centre dans les territoires d'Irumu. En territoire de Beni, reprise effective du trafic sur l'axe routier Mbao-Kamango en secteur de Beni-Mbao. Selon la société civile de ce secteur, bien que la peur soit encore perceptible parmi les passagers, le renfort des militaires le long de cette route d'importance capitale sur le plan économique rassure. C'est depuis la double attaque des ADEF sur cet axe routier les deux dernières semaines que la circulation était coupée entre les deux localités distantes de 72 km. Marc Marofimbo nous fait le point.
Selon la société civile du secteur de Beni-Mbao, depuis le renforcement des effectifs militaires dans leur position le long de cette route, le trafic a repris normalement. Georges Kibaya, son président, indique que les motos, les voitures de transport en commun ainsi que les camionnettes transportant des marchandises circulent sans problème. Pour l'armée, les mécanismes sécuritaires sont mis en place afin de renforcer la sécurité sur cet axe routier pour faciliter une circulation sécurisée à la population. Le capitaine Anthony Malouchai, porte-parole des opérations Sokola 1, demande à la population de continuer a bien collaboré avec les services de sécurité dans la région en livrant les informations sur les mouvements suspects en temps réel afin que les mesures soient prises en temps pour barrer la route aux menaces de l'ennemi. La route Mbao-Kamango est d'une importance capitale sur le plan économique dans la région car elle ouvre la voie à des activités commerciales entre les territoires de Beni et l'Ouganda voisin. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et puis, prise en charge des victimes des affrontements de Kwamout, Médecins sans frontières RDC a dépêché une équipe d'urgence pour prendre en charge les malades, des blessés et autres déplacés. Depuis près d'un mois, MSF maintient sa présence tout en réorientant aujourd'hui une partie de son appui vers Bandundu où les violences perdurent de façon inquiétante. Seule ONG humanitaire opérant sur le terrain dans cette zone, MSF indique que des défis sont énormes en termes de prise en charge des malades et de protection des victimes. On écoute Jimmy Matumuna, chef de mission adjoint pour Médecins sans frontières en RDC. Il est joint par Pierrot et la Méchie.
Depuis le mois d'août dernier, nous avons été alertés d'une grave crise caractérisée par une explosion des violences dans le territoire de Kwamout en province de Maïndombe. Face à cette alerte, une équipe d'urgence a été dépêchée sur place pour prendre en charge les blessés, les patients et les déplacés. Durant un mois et en étant seul acteur médico-humanitaire présent dans la zone, nos équipes ont à travers les cliniques mobiles, mené 750 consultations en collaboration avec le personnel du ministère de la Santé. Une dizaine de blessés ont également été transférés vers là par voie fluviale ou routière pour une prise en charge médicale adéquate. Nos équipes ont vu des maisons incendiées, des personnes tuées et des structures de santé vidées de leur personnel. Face à ces traumatismes, un soutien psychologique a également été offert aux patients qui en avaient besoin. Les besoins les plus criants demeurent la problématique des protections et la prise en charge médicale des cas de trauma, étant donné que ces dernières 72 heures, d'autres blessés sont arrivés à Kwamout Centre. MSF maintient sa présence tout en réorientant aujourd'hui une partie de son appui vers Bandundu, où les violences perdurent de façon inquiétante.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, au Kassa Oriental, 26 écoles primaires et secondaires et 6 centres de santé du territoire de Miabi ont bénéficié ce jeudi des sacs de ciment et des tôles dont des fondations André Kadima et Ultime Espoir. Cette dotation va permettre aux responsables de ces écoles et centres de santé d'améliorer les conditions dans les domaines de l'éducation et de la santé dans ces territoires. Les autorités territoriales ainsi que les bénéficiaires de cette dotation ont eu des mots justes pour remercier les bienfaiteurs. Des explications avec Esther Ndalafina.
La cérémonie de distribution des dons a été présidée par les autorités territoriales de Miabi. Lors de cette cérémonie, Prof. Claude Mouya, représentant des fondations donatrices, a indiqué que la distribution de ces 2000 tôles et des centaines de sacs de ciment rentre dans le cadre du deuxième volet du projet initié pour le territoire de Miabi.
Du matériel pour permettre la réfection de certaines écoles qui sont défectueuses.
Pour Tabou et Mehdi, administrateur de territoire intérimaire, c'est la première fois que les écoles et les centre de santé de son entité reçoivent un appui extérieur.
Nous avons connu autant de régimes, mais nous n'avons jamais vu des choses comme ça ici chez nous. Des fondations, vous avez un cœur vraiment de serviabilité pour les chefs d'établissement, pour qu'ils allaient gérer le sac de ciment et de tôle. Il faut une gestion orthodoxe.
Nombreuses écoles bénéficiaires de cet appui sont construites en chaume. Cette dotation leur permettra de protéger les enfants contre les intempéries. Réaction du préfet de l'Institut Loubi Sud.
Cette école a été créée depuis 1976. On ne l'a jamais construite. Aujourd'hui, nous venons de recevoir 100 tôles et 10 ciments. Les élèves, les parents et les enseignants remercions très sincèrement les deux fondations pour ce qu'elles ont fait pour nous.
Les tôles et les sacs de ciment ont aussi été remis au centre de santé. Signalons que les habitants de Miabi ont bénéficié d'autres dons tels que les pagnes. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
En territoire de Beni, plusieurs écoles de l'intérieur de la chefferie de Ouattalinga, délocalisées au chef-lieu de cette entité, peinent à fonctionner. La plupart de ces écoles proviennent des groupements Batalinga et Baoussa. Le responsable parle de problèmes d'insuffisance d'infrastructures, mais aussi de pléthore d'élèves dans les salles de classe. Il demande une intervention du gouvernement et des humanitaires qui œuvrent dans les domaines de l'éducation. Marc Marofimbo pour des précisions.
Elles sont une dizaine, dont le chef-lieu de la chefferie de Ouattalinga, ces écoles délocalisées suite à l'insécurité grandissante dans la région. Elles fonctionnent difficilement à Kamango. Moussi Gekidji Roger, directeur de l'école primaire Moussana de Kamango par exemple, indique que son établissement héberge des écoles primaires venues de l'intérieur. L'école primaire Kombo de Nobili, elle, héberge 4 écoles primaires, alors que l'école primaire Loanoli en héberge 3 venues de l'intérieur de la chefferie. Toutes ces écoles fonctionnent difficilement, nous indique Paluku Mutualuhuma, directeur de l'école primaire Loanoli, qui parle d'une pléthore d'élèves dans les salles de classe. Les responsables de ces établissements ont résolu de multiplier la fréquentation journalière des élèves, même si, malheureusement, cela n'apporte pas de solution à ces problèmes de surpeuplement par manque d'infrastructure. Ces responsables lancent alors un cri d'alarme au gouvernement, ainsi qu'aux humanitaires œuvrant dans les domaines de l'éducation, de venir en aide pour résoudre ce problème d'infrastructure afin que les élèves étudient dans les bonnes conditions en attendant le rétablissement de la situation sécuritaire dans leur milieu d'origine. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, l'évêque du Moyen Chari lance un appel à l'aide après les affrontements intercommunautaires qui ont fait une dizaine de morts et une vingtaine de blessés il y a quelques jours à Kiabé, dans le sud du pays. De retour d'un déplacement sur les lieux des affrontements, le chef de l'église catholique dans cette province appelle les autorités à apporter assistance aux victimes, mais surtout à faire en sorte que justice soit rendue. Et puis, la commission d'enquête de l'ONU sur l'Ukraine a affirmé ce vendredi que des crimes de guerre ont été commis dans le pays depuis l'invasion par la Russie en février dernier. Sur la base de preuves recueillies par la commission, celle-ci a conclu que des crimes de guerre ont été commis en Ukraine, a déclaré le président de la commission, Eric Moïse, lors d'un premier compte rendu oral qui énumère le bombardement russe sur des zones civiles, de nombreuses exécutions, la torture et les mauvais traitements et les violences sexuelles.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal comme invité Madame Chantal Bahati, coordinatrice nationale de l'ONG dénommée Future for All à Uvira. Elle nous parle des activités culturelles dénommées Gala Culturel ou Moja Grandir Ensemble qu'elle a organisées dans la ville d'Uvira à l'occasion de la journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année. Chantal Bahati revient sur les objectifs de cette activité dans cet entretien avec Fiston Ngoma. Suivez.
Bonjour Madame Chantal Bahati.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Vous avez organisé une activité culturelle à l'occasion de la journée internationale de la paix. Pour quel objectif?
La journée internationale de la paix, c'est une journée qui nous interpelle, nous, Future for All, parce que la paix, c'est notre cheval de bataille. D'abord, comme jeunes, nous avons beaucoup d'ambition. Nous voulons réaliser beaucoup de bonnes choses pour le développement de notre vie, de notre province, de notre pays, mais nous sommes bloqués par la guerre, par les tribalismes, des choses qui nous empêchent à évoluer. On s'est dit comme objectif la paix, cohabitation pacifique, et l'entrepreneuriat, cette journée, nous ne pouvons pas la passer inaperçue. On doit organiser une activité que nous avons appelée Gala Culturel Umoja. Nous avons réuni beaucoup de jeunes, des leaders communautaires à la société civile, donc les leaders tant militaires, étatiques que administratifs. Nous leur avons demandé de restituer ce qu'ils ont suivi ici, parce que ici, nous avons voulu que le message puisse les atteindre d'abord eux, qui sont des décideurs, surtout dans des communautés. Aussi, les jeunes qui étaient ici, des différentes institutions universitaires, même secondaires, pour venir aussi participer. Il faut savoir comment intégrer la jeunesse dans le développement sur le plan économique. Les différentes communautés, Babembe, Bavira, Bafulero et Banyamulenge, qui ont exhibé sur la scène. Tout cela avait pour objectif de montrer que malgré nous sommes différentes communautés, nous partageons tous la même chose, même à travers la danse, à travers les habillements traditionnels.
Vous avez parlé de la paix et des opportunités socio-économiques. Quelle corrélation y a-t-il entre ces deux thèmes pour les jeunes?
Les jeunes, c'est une force pour le pays, parce que quand on se dit qu'on a la force, on se croit capable de surmonter n'importe quoi. Et quand il y a la guerre, il n'y a pas besoin d'utiliser cette force. Il faut qu'il y ait d'abord la paix, mais aussi demander à la jeunesse de se laisser manipuler par ce qui amène les gens à se séparer, à ne pas les donner cette opportunité de bien travailler pour le développement.
Est-ce qu'il y a des opportunités ici dans la région d'Uvira, Fizi, Mwenga qui puissent permettre à ce que les jeunes soient à l'abri des recrutements forcés dans les groupes armés, opportunités de travail?
Des opportunités, il y en a, mais malheureusement encore par la présence de certains milices dans de coins et recoins, ce n'est pas possible. Parce que dans ces milieux où les jeunes doivent s'épanouir, ils n'ont pas la possibilité d'y arriver. Il y a par exemple l'agriculture. Ici en ville, nous n'avons pas beaucoup d'espace pour ça, alors que nous avons même beaucoup d'étudiants qui ont fini leurs études universitaires et ils ont besoin de travailler, mais ils n'ont pas cette possibilité. Alors avec l'agriculture, ça peut arriver à changer beaucoup de choses dans notre ville. Il y a aussi le commerce. C'est pas n'importe qui peut le faire aujourd'hui. Parce que quand vous vous dites que vous irez par exemple à Mississi, vous allez dire, est-ce que on va pas nous traquer en cours de route? Et le peu de moyens que vous aviez pour le faire, vous allez l'utiliser peut-être pour boire de la boisson avec des amis, parce que vous n'avez pas grand chose à faire avec. Vous êtes bloqué. En attendant, la situation se passe bien là-bas. Les jeunes, on a voulu d'abord qu'on puisse multiplier ce genre de rencontres. Ça peut nous aider à ouvrir surtout l'intelligence.
À l'occasion de cette journée internationale de la paix, quel est le dernier message que vous adressez aux jeunes et aux enfants qui vous écoutent en ce moment?
Je demande aux jeunes de ne pas se laisser manipuler, de ne pas céder aux caprices, surtout de nos décideurs, qui eux, ils ont déjà réussi leur vie, je peux le dire entre guillemets. Nous, les jeunes, nous devons prendre en main notre destinée. Et ça ne va pas arriver comme ça, comme la manne tombée du ciel. Il faut travailler, il faut aller de l'avant, il faut arriver à surmonter les préjugés. Celui-ci, c'est un Mounyamulenge, celui-ci, c'est un Mubembe, celui-ci, c'est un Mufulero, celui-ci, c'est un Mouvira, je ne peux rien faire avec lui. Ils sont comme ceci. Non, apprends à approcher l'autre. Apprends à savoir ce qui est à l'intérieur de l'autre pour que toi aussi tu puisses avancer. La différence, ce n'est pas un problème. Et au contraire, c'est une force. C'est une grande force.
Chantal Bahat, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Polydor Basunga, coordonnée et supervisée par Pierrot et Lameji. Merci pour votre particulière attention.